RCF.
Les bonnes ondes. Vincent Bellotti.
Bonjour à tous et à toutes. À l'affiche aujourd'hui de Bourg-en-Bresse à Madagascar, c'est l'aventure vécue en ce moment par 7 lycéens en bac pro informatique. Une mission engagée entre leur établissement et l'association Électricité Coopération Développement. Mais pour y faire quoi précisément, Xavier Jacquet de RCF Pays de l'Ain les a rencontrés avant leur départ. À suivre aussi, Lyon fait son cinéma. Le Festival Lumière bat actuellement son plein avec le réalisateur d'In the Mood for Love en invité d'honneur. Renaud Vol s'est glissé dans les coulisses. Et puis dans Papotage, on sourira pour prendre la photo de classe. Mais tout de suite, notre petit tour d'horizon des infos positives qui nous ont marqué cette semaine. Alors, suivez la cordée.
Le petit journal des bonnes nouvelles.
Là où des hommes sont condamnés à vivre dans la misère, les droits de l'homme sont violés. S'unir pour les faire respecter est un devoir sacré. Ces mots, eh bien, cela fera 30 ans cette année qu'ils ont été prononcés sur le parvis du Trocadéro à Paris par le père Joseph Wrzesinski, le fondateur d'ATD Carmonde. L'occasion de le rappeler en ce jeudi 17 octobre, journée mondiale du refus de la misère, une pauvreté qui en France touche près de 14% de la population. L'une des causes, c'est le chômage, d'où cette initiative lancée par le mouvement « Utiliser le coût des allocations pour financer des emplois en CDI via une entreprise spécialisée ». C'est le principe de « Territoire zéro chômage de longue durée », une expérience lancée notamment au quartier Saint-Jean à Villeurbanne. Agnès Touvenot, chargée du comité de pilotage.
Alors aujourd'hui, l'entreprise, elle a jusqu'à 45 activités. Donc il y a des activités de blanchisserie, notamment au service des TPE du quartier qui avaient des tout petits volumes et qui ne trouvaient pas de prestataires vraiment en porte-à-porte pour faire leurs petites prestations. Il y a de l'activité de soutien scolaire en partenariat avec le centre social du quartier, créer une activité pour faire des stages, notamment de révision pour les élèves de 3e avant le brevet ou tout au long de l'année scolaire. Voilà, donc il faut être vraiment dans les interstices de l'économie. Et l'enjeu, c'est vraiment de révéler ses talents et de construire des activités qui viennent croiser, bien sûr, les parcours professionnels, mais aussi toutes ces expériences du vécu que les gens acquièrent dans leur quotidien et qu'il s'agit de révéler.
Une trentaine de CDI ont été conclus depuis le lancement de ce dispositif en mars dernier. Une expérience prévue sur 5 ans et qui concerne aujourd'hui 10 territoires ruraux et urbains en France. Notre homme de la semaine, il s'appelle Didier Meyran. Il est journaliste télé et radio, dont il y a quelques années à RCF. La radio, un média où on entend des voix comme celle imaginaire perçue par son frère aîné Alain, qui est schizophrène. Une maladie psychique qui touche 650 000 personnes en France et qui impacte directement la fratrie. Alors comment se construire quand on a vécu toute sa jeunesse auprès de quelqu'un aux réactions aussi violentes qu'imprévisibles? C'est pour donner son témoignage que Didier Meyran a écrit un livre, La poire en bois, un appel à ne pas rester seul.
Moi, mon témoignage, c'est juste de dire, ben voilà, être un frère d'une personne psychotique, c'est une vraie douleur. Vous avez tous droit, vous, qui est frère ou sœur de malade psychique, à dire que votre souffrance, elle est légitime, qu'il faut qu'elle trouve un espace de parole, qu'elle doit être prise en charge. Et peut-être, comme j'ai pu tenter de le faire, elle peut être chemin de résilience. Mais parlons-en, rejoignez des groupes de parole, il y en a à travers le territoire. Ne restons pas isolés avec notre souffrance de frère ou de sœur et avec une culpabilité vaine.
La poire en bois de Didier Meyran, le livre est sorti cette semaine aux éditions Texte Vivant, vendu 10 euros. Ses bénéfices iront intégralement à l'association d'information Psychodon. La nouveauté de la semaine, c'est un menu de restaurant qui vous parle. Une carte sonore qui va permettre aux non-voyants de pouvoir choisir et commander les plats en toute autonomie. Le projet a été porté par la Jeune Chambre économique de Lyon, une petite boîte en forme de dictaphone qui a été présentée au restaurant étoilé Tête d'Oie, le premier établissement à l'utiliser dans le Rhône. Et apparemment, elle a été au goût de Christian Cordier, vice-président régional de la Fédération des aveugles de France. Il était au micro de Didier Rodriguez.
J'ai accueilli avec beaucoup de curiosité et beaucoup d'intérêt notre autonomie dans les restaurants pour accéder à la lecture des cartes est relativement limitée. Pour les gens qui, comme moi, connaissent le braille, il nous arrive de rencontrer de loin en loin des cartes en braille, mais c'est rare. Bon, dans ce cas-là, on est obligé de solliciter le personnel de l'établissement.
Pour vous, c'est une très bonne initiative.
Excellente.
Le restaurant Tête d'Oie a le plaisir de vous proposer ce soir les menus suivants. Cuisine de nos régions, en entrée, écrevisses juste saisies. Vous souhaitons un excellent appétit.
Les bonnes ondes, le petit journal des bonnes nouvelles.
L'initiative de la semaine, imaginez un collège où pendant un quart d'heure, on n'entendrait pratiquement plus aucun bruit. Eh bien, c'est le cas à Saint-Louis de Tournon-sur-Rhône, au nord de Valence. La raison de ce petit miracle silencieux, rien à voir avec un jeu ou la menace d'heure de colle, mais on le doit tout simplement au livre. De 13h20 à 13h35, eh bien, tous les élèves sont en effet invités à se plonger dans la lecture. Élèves, mais aussi enseignants, personnel administratif et employés. Une expérience qui a été mise en place depuis la rentrée à l'initiative de l'association Silence. On lit. Dans l'établissement, c'est Marion Bertrand, professeur de français, qui a relayé l'opération avec des objectifs bien précis.
Retrouver ou trouver le plaisir et le goût de lire, ça favorise l'apprentissage de la langue française aussi. Le but, c'est aussi développer la culture et, dernier point, de favoriser la concentration sur les heures de cours de l'après-midi. Et puis, lire devient un réflexe pour nos élèves, c'est-à-dire que quand ils ont fini un exercice avant les autres, bien finalement, presque systématiquement, ils se mettent dans leur livre et ils reprennent leur lecture.
Le collège Saint-Louis de Tournon-sur-Rhône est le premier dans le département à faire partie des 100 établissements français qui adhèrent à cette démarche. Alors si vous êtes enseignant et intéressé par ces 15 minutes de silence littéraire, rendez-vous sur www.silenceonlit.com et après, attention, ne plus déranger. Quelle est la meilleure ville de France pour décrocher un job et devenir propriétaire? Eh bien, deux sites, l'un spécialisé dans l'immobilier et l'autre dans la recherche d'emploi, ont croisé leurs données. Résultat, c'est Lille qui arrive en tête. 12 offres en CDI pour 100 habitants et un prix au mètre carré qui est resté sage. Sur le podium, on retrouve Grenoble en deuxième position et Dijon en troisième. Enfin, organiser le plus grand défilé mondial de dépanneuses. Eh bien, c'est le record qui va être tenté ce week-end à Moulins dans l'Allier. Un défi lancé par l'association Fier d'être dépanneur pour changer l'image de la profession. Luc Le Baron, son président national.
Alors, au départ, c'était pour redonner une bonne image du dépanneur qui était un petit peu associé à la fourrière et aux enlèvements qu'on n'avait jamais demandé, et montrer qu'on n'était pas là que pour ça et qu'on était là aussi dans les moments un peu difficiles quand on tombe en panne, quand on est sur le bord de la route à 3h du matin, quand il y a les enfants qui braillent dans la voiture, quand il y a les accidents, etc. On a un petit peu un rôle aussi d'assistante sociale, un petit peu entre parenthèses, où on est obligé de réconforter les gens, de les mettre au chaud, de leur donner un café, etc. Voilà, donc c'était pour montrer un petit peu plus cette image-là, cette belle image que l'image un petit peu dégradée qu'on avait qui était un petit peu associée à ça.
Une opération aussi pour la bonne cause puisque les fonds récoltés iront au bénéfice d'enfants malades. Alors si vous souhaitez assister au record du monde du plus grand défilé de dépanneuses, rendez-vous ce week-end entre 11h30 et 13h30 à Averme, parc des expositions, à Moulins-sur-Allier, record à battre, 324 véhicules à la file.
Allô, que puis-je faire pour vous? Votre tractopelle est cassée? Il faut le réparer. J'arrive tout de suite avec la dépanneuse pour l'emmener au garage. Allez les enfants, on est parti.
Voilà, on va laisser Pipo dépanner le tractopelle avant de parler d'une autre initiative qui va aussi dépanner, mais cette fois-ci à Madagascar.
Les bonnes ondes, l'invité.
Une belle aventure à la fois technique et humaine, eh bien, c'est ce que sont en train de vivre en ce moment à Madagascar 7 lycéens de l'Ain en bac pro électronique numérique. Leur but, participer à des travaux de maintenance informatique et poursuivre la formation de techniciens locaux. C'est en effet la troisième mission menée par le lycée Saint-Joseph à Bourg-en-Bresse en partenariat avec Électricité Coopération Développement, une association qui travaille avec le père Pedro, ce lazariste engagé contre la pauvreté. Point de chute, Tananarive et Atsirambe au centre de Lille. Composée de 11 personnes, enseignants et accompagnateurs, la délégation est partie le 12 octobre. Xavier Jacquet de RCF Pays de l'Ain a rencontré les participants avant leur départ.
Autour de moi, donc, les jeunes concernés, en tout cas de Saint-Joseph, Anthony, Louis, Enzo, Maxence, Valentin, Tommy et l'enseignant qui dit qu'à partir du voyage, il sera leur papa, Éric Dubiel, qui est à la fois enseignant à Saint-Joseph et parmi les membres de l'association ECD et donc forcément le coordinateur de ce projet. Alors, qui c'est qui veut me dire exactement ce que vous faites depuis le mois de décembre, c'est-à-dire en amont de ce voyage? Qu'est-ce que vous avez déjà préparé? Mais Valentin?
On a récolté des fonds pour le voyage, on a récolté du matériel, on a restauré le matériel pour être prêt à l'emmener.
Quel type de matériel?
On a récupéré des écrans d'ordinateur, des ordinateurs, des claviers, souris, du matériel réseau, des câbles, des switches.
Les fonds, vous les avez récoltés comment?
Les fonds, on les a récoltés en demandant à quelques entreprises, des mairies. On a vendu des tickets de tombola aussi. On a fait une cagnotte sur Internet, une cagnotte Litchi.
Du coup, vous mettez en œuvre les compétences que vous apprenez dans le bac professionnel, mais vous faites ça dans le cadre de vos cours ou c'est en dehors des heures de cours? Louis.
Tout ce qu'on a fait, donc la vente de tickets de tombola, le litchi et toute la récolte de fonds, ça a été fait en dehors des heures de cours. Donc personnellement, on est allé dans nos mairies, dans nos communes, vendre les tickets de tombola dans la famille pour récolter les fonds dont on avait besoin pour ce voyage à Madagascar.
Mais donc le reste, c'était dans le cadre des cours. Ah, je vois Enzo qui nodeline la tête. Oui et non.
Bah, en fait, c'était pendant les heures de cours, mais quand on avait fini les cours ou entre deux, ou quand il y avait Monsieur Dubiel qui avait des heures de libre, par exemple, on restaurait le matériel, on faisait des réunions pour parler du projet, voilà.
Alors, une fois à Madagascar, c'est votre premier voyage à vous dans le cadre de ce partenariat, qu'est-ce que vous allez faire là-bas, Tommy ?
Donc là-bas, on va installer les postes informatiques, donc créer des salles réseau informatiques, aider les Malgaches, et puis découvrir un peu le paysage et justement la journée de touriste.
Qu'est-ce que vous savez des villages où vous allez aller ? Du Père Pedro, de son association, vous avez déjà eu un cours là-dessus. Maxence, qu'est-ce que vous savez de Madagascar ?
C'est déjà un pays très très pauvre, ils sont beaucoup en famine, et ils ont besoin de notre aide pour surmonter ça justement.
Anthony, quelle question vous vous posez ? Enfin, qu'est-ce que ça vous fait, vous, de partir comme ça à Madagascar avec les copains de la classe sur ce projet-là ?
Bah, moi, personnellement, je ne me pose pas beaucoup de questions. Je me dis que c'est une expérience à vivre, donc autant y aller à fond, quoi.
Qu'est-ce qui vous attire le plus, finalement ? C'est le côté maintenance informatique, installation des postes informatiques, renouvellement, ligne Internet que vous allez installer au cours de votre voyage ? Ou c'est tout autant le fait de partir dans un pays étranger ou à Madagascar ?
C'est surtout de voyager, en fait, qui m'a attiré, moi, puis... Tout ce qui est installation, oui, ça sera bien, mais on va en faire toute l'année encore. Donc.
Une fois revenu, qu'est-ce que vous allez faire ? Ça sera fini pour vous ou pas, Tommy ?
Bah, on va continuer comme avant. Puis je voulais rajouter aussi pour Madagascar. Donc on a préparé aussi les containers qu'on a envoyés justement à Madagascar.
Oui, le matériel part avant vous.
Voilà. Donc quand on va arriver là-bas, on va regarder tout ce qui va être les postes informatiques s'ils fonctionnent. Et ça fait une très bonne expérience professionnelle et ça pourra certainement nous aider pour la suite, que ce soit pour le CV, trouver des stages ou même l'emploi.
Du coup, Eric Dubiel, effectivement, depuis 2008, il y a des voyages. Donc il y en a, si j'ai bien compté, ça va être le cinquième. D'abord, 3 élèves en 2008 et puis là, 7 élèves avec d'autres adultes de l'association. Vous, pourquoi vous organisez ce partenariat à Saint-Jo ?
D'abord parce que nos élèves ont la compétence nécessaire pour réaliser des actions de maintenance et de déploiement de matériel informatique. Donc ça, c'est une compétence déjà intrinsèque de nos élèves. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il me semble important, moi, en tant qu'enseignant, d'emmener ces jeunes gens découvrir autre chose que leur environnement classique. Donc ça, c'est un vrai enjeu personnel que je me suis fixé en 2008, faire en sorte que je puisse emmener avec moi régulièrement, chaque fois que je le peux, des jeunes, découvrir autre chose, être immergé, puisqu'en fait, on va vraiment être inséré dans la population et donc au contact de cette population en grande détresse, hein, ils l'ont dit, grande détresse, et donc du coup leur permettre d'avancer dans leur personne, dans leur vie personnelle.
Est-ce que vous avez gardé un lien ou certains sont-ils membres aujourd'hui de l'association ? Par exemple, ceux qui sont partis en 2008, il y a 9 ans ?
Alors on garde des liens, donc ça me fait très plaisir de voir à la fois mes anciens élèves et leurs épouses.
Vous êtes beau-père maintenant ?
Ben, je pense, oui, ça doit être
si,
un peu
si
ça,
je suis le fait que vous allez être leur papa pendant le voyage, vous êtes beau-père.
Alors, l'anecdote par rapport au papa, c'est parce que, en dernière réunion de cet après-midi, c'était pour simplement rappeler à ces jeunes gens que quand on sera ensemble à Madagascar, ils seront très très loin de leur famille et que peut-être que les choses seront difficiles pour certains. Donc là, je serai le référent. Référent, ils sont tous mineurs, sauf un jeune. Donc les responsabilités sont assez importantes. Donc il faut arriver à jauger tout ça et que la confiance soit mutuelle. Et c'est ce que je leur ai dit depuis l'an passé. Ils ont été modestes sur leur participation parce qu'ils ont participé, sont venus avec moi certaines fois 6 heures du matin pour venir travailler, préparer ce conteneur, donc faire des actions qui ne sont pas toujours reposantes. Et ils l'ont fait de façon volontaire, ils se sont eux-mêmes désignés comme étant volontaires et ça c'est très important. Je leur ai dit que quand on sera à Madagascar, quand on tournera le dos, il faut être absolument sûr d'avoir des gens autour de nous qui ne sont pas des gamins mais qui sont de nouveaux adultes prêts à rentrer dans la vie active, prêts à assumer cette confiance. Voilà.
Bah, merci. Merci Eric Dubiel, donc enseignant et coordinateur de ce projet au sein du lycée Saint-Joseph, Madagascar 2017, c'est le nom que vous lui avez donné. Merci Anthony, Louis, Enzo, Maxence, Valentin, Tommy de nous avoir expliqué ce voyage. Merci à vous.
Et des propos recueillis par Xavier Jacquet de RCF Pays de l'Ain, retour de la délégation le 29 octobre. Dans quelques instants, on va parler cinéma avec le Festival Lumière, c'est en ce moment à Lyon, mais juste avant, hommage à une grande dame du grand écran et du théâtre qui vient de nous quitter, bien sûr Daniel Darieux, qu'on retrouve pour quelques notes de chansons.
Le bonheur fait pas rien, mais c'est rien qui nous tient à chasser toutes nos misères. Rien là.
C'est un rien, un délicieux petit rien qui date de 1935. Vous êtes toujours à l'écoute de RCF et ça c'est pas rien, ce sont les bonnes ondes jusqu'à 13h. Lyon fait son cinéma. Depuis samedi dernier, la ville vit au rythme du festival Lumière en référence aux deux frères qui ont inventé, dit-on, le cinématographe. Et il y a du beau monde, Renaud Vol de RCF Lyon s'est glissé dans les coulisses.
397 séances, 177 films dans 60 lieux. Une occasion pour les cinéphiles de revoir sur grand écran classiques et raretés du cinéma mondial. Mais le Festival Lumière, c'est toujours un coup de chapeau à une figure majeure du 7e art. Après Catherine Deneuve l'année dernière, c'est le réalisateur Wong Kar-wai qui reçoit le 9e prix Lumière. Thierry Frémaux, directeur de l'Institut Lumière et organisateur de l'événement.
L'univers de Wong Kar-wai, c'est d'abord un film qui s'appelle In the Mood for Love, que tout le monde connaît, ou en tout cas dont tout le monde connaît la musique et la chanson. Et c'est un univers de la jeunesse de Hong Kong, une jeunesse à la fois désœuvrée et combative. Une jeunesse à la fois dans l'interrogation de son destin, qui était aussi une interrogation du destin du peuple de Hong Kong avant l'an 2000. Et c'est un homme qui fait un cinéma de poète, un cinéma de peintre, un cinéma d'esthète et pourtant un cinéma qui dit des choses. Et revoir ses films aujourd'hui, sur les 20 dernières années, on s'aperçoit qu'il a saisi un moment particulier de l'histoire du monde, qui est celui de la jeunesse asiatique, fascinée par le monde occidental et en même temps complètement sûre d'elle-même et s'interrogeant sur les destins collectifs.
Depuis samedi et jusqu'à dimanche, de nombreuses personnalités se succèdent pour parler de leur propre filmographie, comme Anna Karina, Diane Curis, Jean-François Stevenin, William Friedkin ou Tilda Swinton. D'autres viennent présenter les films qui jalonnent leur cinéphilie, tels Marina Foïs, Pierre de la Longchamp, Jean-Paul Rapneau ou Jean-Loup Dabadie. Des temps de partage inaugurés par Eddie Mitchell, invité d'honneur de cette édition.
C'est un artiste que nous aimons, une personnalité très extraordinaire, un acteur magnifique et un cinéphile hors pair. Merci de l'accueillir chaleureusement, Eddie Mitchell.
Très gentil. Je me demande comment je vais faire demain, par contre. Non, c'est vrai, des louanges hier, d'autres aujourd'hui. Je sais pas, je vais demander à Pierre Richard qui m'écrive un petit texte pour moi.
Cette année, du western classique au film de Henri-Georges Clouzot, en passant par les muets de Harold Lloyd, tous les types de films sont représentés, y compris les films de science-fiction ou les dessins animés de Walt Disney. Et pour orienter spectateurs et professionnels, c'est toute une équipe de salariés et bénévoles qui est mobilisée. Parmi eux, Audrey Mathieu, chargée de planifier les allées et venues des professionnels du cinéma.
Ben, on gère un peu au fur et à mesure toutes les modifications de présentation, des gens qui sont finalement pas au bon endroit, qui sont déjà allés par leurs propres moyens quelque part. Voilà. On a par exemple des bénévoles qui nous appellent, ben, Monsieur X n'est pas dans sa chambre, voilà, donc on le fait appeler et puis en fait on essaye de trouver l'info et on s'aperçoit qu'en fait il est déjà parti en salle, il est parti à pied parce qu'il avait envie de se promener, il faisait beau, il est déjà là-bas. Ça arrive. Ouais.
Le Festival Lumière se poursuit jusqu'à dimanche avec notamment tout le week-end une brocante du cinéma et des surprises jusqu'à la dernière minute avec par exemple aujourd'hui la venue de Charles Aznavour.
Je me voyais déjà en haut de l'affiche, en 10 fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'étalait. Je me voyais déjà.
Charles Aznavour, toujours en haut de l'affiche, puisqu'à 93 ans, il donnera un concert unique à Paris le 13 décembre prochain et que son étoile était gravée tout récemment sur le fameux boulevard des célébrités à Hollywood.
Les bonnes ondes, Vincent Bellotti.
Cinéma toujours, envie soudaine d'aller vous faire une toile sans faire la queue aux caisses. Eh bien, Juliette Lissandre, vous avez une solution et ça ressemble presque au ticket restaurant.
Et oui Vincent, aller voir un film quand vous voulez et pratiquement où vous voulez, ce n'est pas du cinéma mais ça porte un nom, Cinéchèque. Des billets à emporter avec soi ou à télécharger sur son portable, le système n'est pas vraiment nouveau puisqu'il existe depuis 23 ans mais il reste encore méconnu, d'où cette nouvelle campagne relancée par Cinéchèque, l'entreprise émettrice. Mais alors comment ça fonctionne? Les explications de Nicolas Chauveau, le directeur marketing.
Il suffit tout simplement de se présenter à l'entrée du cinéma et de présenter son Cinéchèque, vous n'avez pas besoin de payer. La seule chose qui peut vous être demandée en complément, c'est la location ou l'achat pour la 3D de lunettes. L'idée, c'est pas forcément d'être un bon de réduction. Alors, on fait des ventes privées qui peuvent être accessibles auprès des opérateurs nationaux que vous pouvez connaître sur Internet. Mais le but, c'est d'avoir un chèque que vous pouvez emmener absolument partout. Donc, en fait, c'est un prix moyenné sur l'ensemble des séances en France.
Pour le prix, justement, comptez 9,85€ le billet à l'unité. Mais plus on achète en quantité et moins ça coûte cher. 8,25€ pour un carnet de 10 places à 82,50€. Plus de 1250 salles sont concernées par cette offre, soit 85% du parc français dans un millier de villes de France. Et si votre cinéma n'accepte pas votre ciné-chèque, vous pourrez le renvoyer et l'échanger contre des loisichèques qui vous offrent des solutions culturelles de rechange.
On va regrouper autour du loisichèque une notion de moment de loisir, de petits moments de plaisir du quotidien, avec effectivement des entrées pour aller au cinéma bien entendu, mais aussi des albums de musique en téléchargement légal bien entendu et compatible sur l'intégralité des supports. On va travailler aussi sur de la presse physique et des matérialisés et on va travailler sur de la VOD, donc des films en location et sur des box de loisirs à petit prix.
Vente directe aux particuliers ou aux comités d'entreprise, ce Cinéchèque se veut surtout un moyen de renforcer la fréquentation des salles, plutôt stable depuis le début de l'année avec un peu plus de 150 millions d'entrées.
L'idée c'est de proposer une billetterie unique donc sur l'ensemble du territoire national autour du loisir préféré des Français, c'est-à-dire le cinéma qui a plus d'un titre, une véritable exception culturelle en France. Les Français sont les plus gros consommateurs de cinéma d'Europe. On a le réseau le plus densifié également du continent européen. Et notre rôle, c'est effectivement de convertir des gens à aller au cinéma. Et ça, on le fait donc vis-à-vis des comités d'entreprise, mais aussi sur toutes les opérations marketing qu'on peut mener tout au long de l'année auprès de clients très différents.
Voilà, Cinéchèque. Les places sont valables 6 mois et proposées par pack de 1 à 10. Elles peuvent se commander sur des plateformes privées ou des grandes enseignes de distribution. Pour tout renseignement, rendez-vous sur www.cinéchèque.fr et bonne séance.
Moteur demandé, ça tourne. Action.
Action, il y a plein de bons films à voir en ce moment. Merci Juliette. Alors en parlant de chèque, je ne sais pas si vous êtes demandé un jour à quoi pouvait bien ressembler la vie d'un multimilliardaire philanthrope. Eh bien on va tout de suite le découvrir avec notre prof en citation positive.
Une pensée pour avancer avec Michel Delaunay.
Et bonjour Michel.
Bonjour Vincent.
Le succès est un mauvais professeur, il pousse les gens intelligents à se croire infaillibles. Alors c'est pas moi qui le dis, mais un certain Bill Gates.
Oui, le fondateur de Microsoft et génie de l'informatique.
L'homme, dit-on, le plus riche du monde.
Effectivement, il a aujourd'hui 61 ans et il a bâti sa fortune à 20 ans en créant sa première société avec son ami Paul Allen, Micro Computer Software. Ce langage de programmation qui fonctionne sur un ordinateur commercial.
Un succès qui, contrairement à sa propre phrase, ne lui a pas tourné la tête puisqu'après avoir quitté Microsoft, eh bien Bill Gates s'est consacré aux autres à travers sa fondation.
Fondation la plus caritative du monde puisqu'il lui a légué 95% de sa fortune. Cette fondation soutient des programmes en matière de santé en faveur de l'agriculture en Afrique et d'éducation aux États-Unis. Et lui-même mène une vie plutôt simple.
Oh, et si j'étais riche.
Oh, si j'étais riche comme Ivan Rebroff. Mais justement, Michel, quelle est la vie d'un archi-milliardaire comme Bill Gates?
Il commence sa journée par une séance de sport, tout en regardant les cours prodigués par les meilleurs chercheurs enseignants de la planète. Son emploi du temps est découpé en créneaux de 5 minutes, après quoi l'esprit se déconcentre.
Tous ces rendez-vous se font montre en main et connectés, j'imagine.
Exactement, et lors de ses jours de repos, il aime visiter des usines électriques ou des silos à missiles, avec ses 3 enfants. On est loin de Disneyland.
Effectivement, et pas question pour eux, paraît-il, de passer leur temps devant des écrans.
Pour ses 2 filles et son garçon, il a limité l'accès aux écrans jusqu'à l'âge de 14 ans. Enfin, même s'ils habitent une somptueuse maison dans l'État de Washington, le soir venu, point de caviar ni de champagne, le repas est simple et ensuite c'est lui qui fait la vaisselle. Avant d'aller dormir, pour avoir ses 7 heures de sommeil, indispensable pour lui.
Donc si je comprends bien, faire des bonnes nuits et récurer les assiettes, voilà la recette pour garder toute sa tête quand on est milliardaire, à méditer avant de remplir sa grille de loto. Merci Michel, qui n'est pas encore milliardaire, ça viendra peut-être un jour. En tout cas, rendez-vous la semaine prochaine.
et me faire riche, moi.
Aïe, ah, si j'étais riche, il a bien dû l'être, Yvan Rebroff. En tout cas, il a trouvé sa voix. Il n'y a pas photo. Justement, photo, vous souvenez-vous de celle qu'on prenait en classe? Avez-vous gardé ces images de votre jeunesse, tous en randonnion? Marie-Charlotte Laudier a sorti non pas l'appareil, mais le micro. C'est papotage.
Il n'y a pas d'âge pour se parler. Papotage avec la pierre angulaire, membre d'Habitat et Humanisme.
C'est le photographe qui nous a placés et j'étais à côté d'un garçon et d'une fille.
Moi, je ne l'ai pas encore faite, mais en maternelle, j'étais souvent à côté de la maîtresse ou de la SEM et on était souvent sur des toboggans ou sur des balançoires. Des fois, c'était avec des cerceaux, du sable, des pelles. Nous, en fait, nos photos de classe, c'est des lignes avec les personnes qui sont 3 par 3 ou 2 par 2. Et moi, j'étais à côté de la maîtresse.
On a des photos de classe, et ça se faisait pas tant que ça à l'époque. J'en ai peut-être une photo qui est avec mon certificat d'études placé où je n'en sais rien. C'est que des bons souvenirs. Dans la cour, devant la fontaine, tout le monde était debout.
Les grandes étaient derrière et les petites devant, en tailleur, hein, assises en tailleur. Je suis petite de taille, mais là j'étais grande à 9 ans et demi. Et en voyant la photo de classe, en faisant voir la photo de classe à des gens de ma famille, j'ai dit, tu vois que j'étais grande quand j'étais petite. Et c'est vrai, mais j'ai plus grandi. Le photographe venait dans la cour, où il nous positionnait, et puis voilà, il avait un appareil, il se mettait le chiffon sur la tête, le chiffon noir, là, et puis voilà.
Une photo de classe sans maîtresse, c'est plus une photo de classe. S'il vous plaît, dites oui.
Moi, il y a des soirs, je les regarde et j'adore. Parce que je me dis, celles-là, elles sont parties et tout, c'est super bien, les regarder. Un coup, en fait, j'en ai regardé une et j'ai une amie qui s'appelle Anna. Et quand elle était petite, en fait, maintenant, elle a les cheveux assez longs. Et en fait, quand elle était petite, elle avait les cheveux super courts, donc ça me faisait tout bizarre de la voir sur la photo.
Ah, c'est ce que je vous dis, mon Dieu, et celle-là, qu'est-ce qu'elle est devenue, et celle-là, oh là là, je l'ai rencontrée il y a X années, elle a vieilli. Non, c'est une émotion, bien sûr, mais vous expliquez quel genre d'émotion, c'est des bons souvenirs, c'est une période heureuse. À l'époque, on pensait sûrement pas ça, hein, quand on est gamin. Mais après, bien sûr, ces dames sont sûrement d'accord avec moi. Quand on vieillit, c'était une période heureuse, insouciante, voilà.
C'était Papotage avec la pierre angulaire, réseau de maisons d'accueil et de soins, membre d'Habitat et Humanisme. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.habitat-humanisme.org.
Le papotage qu'on retrouvera la semaine prochaine. Les bonnes ondes, eh bien, on va baisser le rideau pour cette semaine. Lundi, on vous emmènera à l'auberge, mais pas pour déjeuner, mais pour dormir et voir du monde et éventuellement donner un petit coup de main dans le quartier. C'est l'Alter Hostel, une auberge de jeunesse un peu particulière qui s'est ouverte à Lyon sur les quais de Saône en avril dernier. On recevra son fondateur, un ex-prof de sport parti faire le tour du monde. Lui, par contre, n'a pas fait le tour de la planète, mais celui des manettes, c'était Christophe Morague. Et qu'est-ce que vous allez faire ce week-end, Christophe?
Un tatouage sur la hanche, ça vous va?
Écoutez, pourquoi pas marquer j'aime RCF, ça peut le faire. Bon week-end à tous et à toutes, et rappelez-vous, les bonnes ondes, c'est à vous aussi de les diffuser.